Donc Cheikh Al-Albani dit, il n'y a aucune preuve de l'existence de ce silence que marquent certains imams de notre époque, même si malgré cela, l'individu priait derrière un imam qui était convaincu qu'il faut marquer ce silence pour que ceux qui prient derrière puissent lire la Fatiha. Donc celui qui prie derrière ces personnes, ces imams, même s'il n'est pas convaincu par leur avis, il peut lire au moment de ce silence la Fatiha. القراءه بعد الفاتحه تدوير la personne après qu'il ait achevé la lecture de la sourate الفاتحه ويسن ان يقرا بعد الفاتحه من سوره اخرى حتى في صلاه الجنازه او بعض الايات في الركعتين الاوليين ويسن ان يقرا بعد الفاتحه سوره اخرى الى السنه de lire une sourate après la lecture de la sourate al-Fatiha. حَتَّى فِي صَلَاتِ الْجَنَازَةِ أَوْ بَعْضَ الْآيَاتِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. L'imam, au cours de la prière mortuaire, au cours de la prière funéraire, qui est comme on fait la prière après pour le mort, après qu'il était lavé et avant de l'enterrer, certains pensent qu'il n'est pas de la sunna de lire une sourate après sourate al-Fatiha. Cheikh Al-Albani corrige cette erreur et dit que même au cours de cette prière, il est de la sunna de lire une sourate après la lecture de la sourate al-Fatiha. Il dit même s'il ne s'agit que de quelques versets, c'est-à-dire si on prend quelques versets choisis parmi plusieurs autres versets qu'on ne lise pas une sourate en entier. ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. Et parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prieur, donc puisque le prieur doit prier comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit parfois, Cheikh Al-Albani a dit, parfois il est de la sunna de lire d'avoir une longue lecture. Elle est passée à Ahyan et il est de la semaine aussi de lire peu parfois, donc d'avoir une lecture courte. Surtout si, par exemple, elle a fait un voyage, ou bien si elle est atteinte d'une toux, ou bien si elle est malade, ou bien s'il s'agit de l'imam, quand l'imam prie et qu'il entend le pleur d'un enfant, bien sûr, cet enfant va déranger son père ou bien sa mère qui va être inquiété peut-être par les cris du petit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par clémence, à cause de ses pleurs, il raccourcissait sa prière. وتختلف القراءة باختلاف الصلوات فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا. La lecture, la longueur de la lecture varie selon les prières. فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس. La lecture que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de la prière de l'aube était beaucoup plus longue que la lecture qu'il faisait lors des autres prières. En deuxième position, on vient à Salat al-Dhuhr, donc il a prié compris le zénith, ou plutôt juste après le zénith, c'est-à-dire on attend que le moment du zénith arrive. À ce moment-là, les ombres des choses ont une taille minimale. Ensuite, juste au moment où la taille commence à s'allonger, la taille des ombres commence à s'allonger, les choses de direction aussi. À ce moment-là, on peut prier Salat al-Dhuhr, mais au moment du zénith lui-même, il n'est pas permis de prier. Thumma al-Asr. Le moment du Asr, comment le connaître? Au niveau de la Mecque, c'est simple, car le soleil est au-dessus des têtes tout au long de l'année. Donc, c'est lorsque toute chose aura un nombre dont la taille sera égale à la taille de l'objet lui-même, c'est à ce moment-là que l'Asr, que le moment de l'Asr, a commencé. Ça, c'est à la Mecque. Mais quand on se rapproche du pôle, quand on change de latitude, les ombres des objets ont une taille beaucoup plus grande. Et plus on s'approche du pôle, plus les rayons du soleil sont inclinés. Donc, comment connaître l'heure du Asr si on n'est pas à la Mecque? Il faut compter la taille minimale, sa longueur, et la diminuer de la taille qu'elle aura juste après. Quand la taille totale sera égale à la taille de l'objet plus la taille minimale lors du zénith, c'est à ce moment-là que l'heure du Asr aura commencé. Je donne un exemple. Le soleil vient de se lever. Les tailles, bien sûr, les tailles des ombres sont maximales. Plus le soleil se lève, plus les tailles des ombres commencent à diminuer. Elles diminuent doucement, doucement, jusqu'au zénith. Au zénith, les ombres ont une taille minimale. Puis ensuite, cet ombre se stabilise un peu, puis il change de direction et sa taille commence à s'allonger. Donc on dit à ce moment-là qu'on peut prier l'eau. Il faut calculer la taille de cette ombre. Si elle fait par exemple pour un objet précis 10 cm et que l'objet lui-même fasse par exemple 40 cm, quand la taille de l'ombre aura 50 cm, c'est-à-dire la taille de l'objet lui-même 40 cm plus 10 cm qui est la taille de l'ombre minimale, c'est à ce moment-là qu'on peut prier l'Asr. Donc, on revient au niveau de la lecture. La lecture, donc, était plus longue au cours de l'aube, puis ensuite au cours de l'aube, qui est juste après le zénith, puis ensuite au cours de l'Asr, puis ensuite vient en avant-dernière position l'Isha, qui est la prière de la nuit, si on veut, et comment connaître son heure. C'est quand la lueur rouge que l'on voit après le coucher du soleil, quand cette lueur, bien sûr à l'ouest, disparaît, c'est à ce moment-là que l'on peut débuter la prière de l'Isha, et c'est à ce moment-là aussi que s'achève l'heure du Maghreb. Le Maghreb, bien sûr, c'est le crépuscule, lorsque le soleil se couche. C'est à ce moment-là qu'on peut prier le Maghreb. Donc, à la fin vient le Maghreb pour la longueur de sa lecture, qui est la moins grande. والقراءه في صلاه الليل اطول من ذلك كله. La lecture que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de la prière non obligatoire de la nuit était beaucoup plus longue que celle des autres prières. والسنه اطاله القراءه في الركعه الاولى اكثر من الثانيه. La sunna, c'est d'avoir une lecture plus longue, plus grande au cours de la première raka'a, au cours de la première station du bout, donc, plus grande donc que celle de la deuxième raka'a, la deuxième station du bout, après que l'individu se soit relevé de la prostration, comme il sera expliqué un peu plus tard. وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف. De la même façon, la longueur de la lecture au cours des deux dernières raka'at, des deux dernières stations debout, quand on prie une prière qui comporte quatre stations debout, quatre raka'at, la longueur de la lecture au cours des deux dernières raka'at équivaut à peu près à la moitié de la longueur des deux premières. قراءه الفاتحه في كل ركعه. La lecture de la Fatiha doit être effectué à chaque raka'a, à chaque station debout. Il est obligatoire de lire surat al-Fatiha à chaque raka'a. Il est appelé par raka'a, bien sûr, le cycle qui comprend la station debout, puis le recou qui vient de la position où l'angle fait avec les jambes 90 degrés, un angle droit. Puis ensuite, la personne se relève, puis ensuite elle se prosterne, elle se relève de la prosternation en étant assise par terre, en étant assise par terre, puis elle se prosterne une deuxième fois, puis ensuite elle se lève. Tout ceci est un cycle qu'on appelle raka. Et ceci qui se répète au cours des prières. Il se répète quatre fois au cours des prières de Dhuhr et de l'Asr ou de l'Isha. Il se répète trois fois seulement au cours de la prière de l'Maghrib. Et il se répète deux fois seulement au cours de Salat al-Fajr. ويسمى الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا. يدي شوابينجي يدي دولا سنوسي دولي بقوة أكوه دي دو درني غرقعة دولي أبخي الفاتحة دولي انسورة أبلوس بقوة بيشوف. ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة لأكثر مما جاء في السنة فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي الحاجة. Il est pas permis donc à l'imam de trop prolonger la prière, de trop prolonger la lecture, de l'allonger plus que ne le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela gênerait ceux qui prient derrière cet imam. Il peut se trouver parmi eux une personne âgée, une personne malade, ou bien une femme dont l'enfant a besoin d'être allaité, ou bien en général toute personne qui a un besoin ou un autre. الجار والإصرار بالقراءة يجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء ويصر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخريين من صلاة العشاء ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة متوسط في رفع الصوت ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح لما لكتور سفي أوتوا donc c'est une personne à côté de la personne qui prie toute seule si se trouve une personne à côté de la personne qui prie elle entendra donc sa lecture l'imam au cours de cette prière donc doit faire entendre sa lecture à ceux qui sont derrière lui. Quelles sont ces prières où la lecture doit se faire à haute voix? Il s'agit de Salat al-Subh, qui est la prière de l'aube, Salat al-Jumu'ah, c'est la prière qui se prie au zénith le jour du vendredi, à la place de Salat al-Dhuhr, et l'Idain, la Salat de Deuïd, l'Id al-Adha, l'Id al-Fitr, et l'Istisqa, la prière de demande à Dieu de la pluie, et le Kusuf, la Salat qui est prié à l'occasion d'une éclipse, et les deux premières raka'a de Salat al-Maghrib, la prière du crépuscule, et l'Isha, la prière de la soirée, de la même façon, les deux premières raka'a de cette prière, la lecture sera effectuée à haute voix. ويشر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخريين من صلاة العشاء. Par contre, la lecture se fait en silence, donc l'individu bouge, se lève, mais on ne l'entend pas lire. Ceci au cours de la prière de Dhuhr, la prière qui se fait donc juste après les zéniths, et au cours de la prière de l'Asr, et au cours de la troisième raka'a de Salat al-Maghrib, la prière du crépuscule, et les deux dernières raka'a de Salat al-Isha, la prière de la soirée. Et toujours l'imam, il nous met à homo l'ayat ahyanan il salat al-Fitriya. Il est permis à l'imam de lire parfois un verset à haute voix, même si la prière qui est effectuée, normalement la lecture doit se faire en silence. Pourquoi? Pour, par exemple, pour faire savoir à certaines personnes qui ne sauraient pas comment prier, qu'il faut lire. Le fait qu'ils voient l'imam prier en silence peut leur faire croire qu'il ne faut rien dire. Et si l'imam est en présence, bien sûr l'imam connaît les personnes qui prient dans sa mosquée, qui sait qui se trouve parmi ces personnes des gens qui peuvent ignorer cet élément, il est recommandable qu'il fasse entendre deux fois de temps en temps un verset, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre aux gens qui entrent nouvellement dans l'islam. وأن الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت. الوتر أنا أقول par الوتر des fois la prière nocturne. Pourquoi الوتر؟ الوتر ça veut dire inter en arabe. La prière nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectue toujours avec un nombre de raka, nombre de cycles donc, inter. Ainsi que c'est pour cette raison là qui l'appelait Witr. Mais ici, Cheikh Al-Bani s'adresse généralement à ceux qui ont fini par croire que Witr est toujours la dernière raka'a qui achève la prière nocturne. À la ville, ce qui est juste, c'est que Witr désigne toute la prière de la nuit. Donc il dit, il est permis de lire à haute voix, parfois, et de lire parfois en soi-même, en silence, sans faire entendre sa lecture. Mais s'il lit à haute voix, il ne doit pas élever celle-ci, il doit lire avec une voix moyenne. Parce que le Coran, le fait de lire le Coran avec application et comme il se doit. فالسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هدا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا ويزين القرآن بصوته ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية. فالسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هدا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. La sunna est de lire le Coran avec application, sans se presser, sans que le mot soit avalé et prononcé rapidement, et sans précipitation. بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. Mais plutôt en lisant une lecture bien claire, bien précise, qui fasse apparaître les lettres bien détachées. Et nous aiguillons le Coran à défauter et qu'il essaye, que le prieur essaye de lire le Coran avec une belle voix, et de lire ainsi sa lecture du Coran. ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد donc psalmodier en suivant les règles définies et établies par les savants spécialistes de la lecture du Coran en tajwid. ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية donc mais son embellissement de la voix ne doit pas être exagéré, on ne doit pas chanter ni prononcer le Coran à la façon que font certains en suivant des mélodies précises ou bien des tons qui n'ont pas d'origine dans la sunna. Al-fathu ala al-imam, c'est l'action d'aider l'imam, de lui souffler, si on veut, lorsque il a oublié un verset et qui n'arrive plus à faire la liaison entre les versets. ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة. ويشرع للمقتدي il est établi par la religion, il est recommandé par la religion que ceux qui prient derrière l'imam, ceci doit être fait dans l'ordre et ce n'est pas tous ceux qui prient derrière l'imam qui doivent se prononcer, car ceci créerait le douleur. Donc il est permis et établi que ceux qui prient derrière l'imam l'aident et lui soufflent si sa lecture est interrompue, par exemple s'il a oublié un verset ou s'il commence à hésiter.
Al-Rukou, C'est l'inclinaison de la prière.
Le fait de mettre les mains sur les genoux et d'avoir le dos qui fait un angle droit avec les jambes, c'est la position qui se trouve juste après la position debout dans l'ordre des positions successives de la prière.
فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتعاد إليه نفسه. Dès qu'il achève la lecture des sourates, donc au cours de la position debout, il se tait, il marque un bref silence, juste pour reprendre son souffle. ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. Il lève ensuite ses mains de la façon décrite. Quand on a parlé du takbir par lequel l'individu entre en prière. Wa yukabbiru wa huwa wajib. Il prononce alors Allahu Akbar, et ceci est une obligation. Thumma yarka'u biqadri ma tastaqirru mafatiluhu wa ya'khudhu kullu 'udwin ma akhadha wa hadha rukn. Donc ensuite il passe à la position du rukou' qui va être décrite un peu plus tard. بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو ما أخذه يدوى رسته dans cette position la position du record au moins le temps qu'il faut pour que ces articulations reviennent à leur place, retrouvent leur racination d'origine et que chaque membre retrouve sa place d'origine, et ceci est un pilier, donc un pilier de la prière. Et s'il était délaissé, la prière ne serait pas valable et serait donc annulée. Ceci est au record. Au record, on en a déjà parlé succinctement, c'est la position où la personne est debout et le dos fait un angle droit avec ses jambes. Si on traduit le record par génuflexion, ce qu'il faut, parce que cela sous-entend que le genou est fléchi. Or, dans cette position, les jambes sont bien droites, il n'y a pas de flexion du genou. ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه وهذا كله واجب. Au cours de cette position, il doit mettre ses mains sur ses genoux, les paumes de ses mains sur ses genoux, en agrippant bien ses genoux. ويفرج بين أصابعه des mains sont écartées, comme s'il s'agrippait véritablement à ses genoux. Wajib, c'est une obligation. ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر وهو واجب. Il doit maintenir son dos bien droit, donc le dos fait un angle droit avec les jambes, il doit être bien droit et bien plat, de façon à ce que même si on déversait de l'eau sur ce dos, l'eau se stabiliserait sur le dos et ne se déverserait pas. Ouais, de la même façon, ceci, ces détails sont obligatoires. Il faut les accomplir obligatoirement. ولا يخفض رأسه ولا يرفعه ولكن يجعله مساويا لظهره. Au cours de cette position, il ne doit pas lever sa tête, il ne doit pas la tirer en arrière, ni la baisser, mais il doit être dans le plan du dos. ويبعد مرفقيه عن جنبيه. Il doit écarter ses coudes des flancs. Il ne doit pas les coller à ses flancs. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر. Il doit prononcer cette invocation au cours de son record. Au cours de cette position, il doit dire Subhan Rabbil Azim trois fois au plus. Subhanallah, Subhan Rabbi, on l'a vu auparavant, ça veut dire je reconnais, c'est une façon d'affirmer le fait que Dieu ne connaisse pas de défaut. C'est une façon de dire au Dieu, et je reconnais. J'affirme que tu n'as point de défaut. Al-Azim, le majestueux. Ô toi Dieu qui est majestueux, Je reconnais que tu ne connais pas les défauts. وهناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الثالثة عشر بعد المئة أطبع الحادية عشر il y a d'autres invocations autres que celle-ci qui doivent être prononcées à ce niveau certaines sont longues certaines sont moyennes certaines sont courtes On peut en prendre compte dans cette salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'origine. Taswiyatul arkan, le fait de faire en sorte que la durée de tous les piliers cités, et les piliers qui vont être cités comme en prosternation, que cette durée soit égale. ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. Il est de la sunna de faire en sorte que la durée des piliers soit égale en longueur. De cette façon, ركوع, l'inclinaison, وقيامه, la position debout après le ركوع, c'est-à-dire deuxième position debout. Bien sûr, la première, c'est juste au début de la prière, après qu'il ait levé ses mains, au moment où il lit. Ensuite, bien sûr, il va s'incliner, il va faire le record. Ensuite, il se répartit, cette deuxième position debout, et ainsi que la prosternation, ainsi que la position assise qui se trouve entre les deux prosternations. Donc, il est de la sunna que tous ces piliers cités, soient d'une durée إذا ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود il n'est pas permis de lire le Coran au cours de l'inclinaison ni au cours de la prosternation الاعتدال من الركوع le fait de se lever de le corps qui serait pas bien donc de revenir en position debout ثم يرفع صلبه من الركوع وهذا ركن ensuite Il relève son dos, qui donc était incliné, et ceci est un pilier. D'ailleurs, on vient de le citer parmi les piliers de la prière. ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده وهذا واجب. Et au moment où il se rétablit, il doit dire سمع الله لمن حمده, qui veut dire que Dieu exauce ceux qui le louent. وهذا واجب. Cette prononciation est une obligation. Entre parenthèses, quel est l'intérêt de dire à chaque fois ceci est un pilier, ceci est une obligation ceci a une importance très grande, puisque le fait d'abandonner un pilier de la prière, de ne pas l'accomplir, provoque l'annulation de la prière n'est pas recommencée. Mais le fait d'abandonner un élément qui est une obligation, bien sûr, sans faire exprès. Si par exemple une personne, sans faire exprès, abandonne un pilier de la prière, sa prière donc est annulée, mais s'il, sans faire exprès, il a oublié un élément qui a été cité comme étant un élément obligatoire, la prière n'est pas à refaire, mais la personne doit à la fin de sa prière, réparer cette faute, en ajoutant deux prosternations qui sont effectuées de la même façon que sont effectuées les prosternations de la prière, ainsi que nous allons le voir. ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة et lorsqu'il se relève de son inclinaison, il lève ses mains de la façon qu'on a décrite au début. ثم يقول معتدلا مطمئنا ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه وهذا ركن. Ensuite, il se relève et il doit rester dans cette position jusqu'à ce que chaque os, chaque membre retrouve son apaisement d'origine. Il ne doit pas tout de suite passer à la station suivante sans s'être rassérénée. وهذا ركن, cette position debout, cette deuxième position debout est un pilier de la prière. ويقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد، وهذا واجب على كل مصلي ولو كان مؤتما، فإنه ورد القيام، أما التسميع فورد الاعتدال. ويقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد. في الطابق الجديد يدبو يجي ربنا ولك الحمد. C'est-à-dire, oh Dieu, notre Seigneur, c'est à toi qu'on revient, c'est toi qui mérite la louange totale, la louange absolue. وهذا واجب على كل كل مصلي ولو كان مؤتما. Cette prononciation, cette formule doit être prononcée obligatoirement par tout prieur, qu'il soit l'imam ou bien qu'il priverait l'imam. Cheikh Al-Albani veut par cette parole corriger la faute que commettent plusieurs prieurs en croyant que seul l'imam doit prononcer cette parole. فإنه ورد القيام أما التسميع فورد الاعتدال. Cette formule n'est pas prononcée quand on est debout, alors que la première formule سمع الله لمن حمده doit être prononcée au cours du passage du recours à la station debout. C'est-à-dire dès que la personne commence à relever sa tête de l'inclinaison, la personne commence à dire سمع الله لمن حمده. Ensuite, quand il s'est rétabli en position debout, à ce moment-là, la personne dit ربنا ولك الحمد. Il y a d'autres invocations aussi que l'on peut prononcer à la place de cette formule ربنا ولك الحمد. Bien sûr, puisque ce petit livre est un résumé, Cheikh Al-Albani n'a pas cité que ces invocations, il n'a cité que celle-ci. Donc, pour en prendre compte, il faut revenir au livre d'origine. ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده. وانظر إن شئت البسط في الأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. On avait vu que lors de la première position debout, donc juste au début de la prière, le prieur met ses mains sur la poitrine, la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Cheikh Al-Albani fait remarquer que ceci n'est valable que pour la première position debout et que au cours de cette deuxième position debout, qui se trouve donc entre recours au sujoud, entre l'inclinaison et la prosternation, le prieur n'a pas à mettre ses mains sur la poitrine. Mais ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent prendre compte des paroles de Cheikh Al-Albani dans le livre d'origine. ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم. Il doit faire en sorte que la durée de cette position debout soit à peu près égale à la durée de la position précédente, qui est le record, qui est donc l'inclinaison, et tout ceci, on l'avait vu auparavant. Sujoud, la prosternation. ثم يقول الله أكبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا. Ensuite, puisque maintenant il s'est relevé du record, non position debout, il dit الله أكبر, qui veut dire Dieu est le plus grand, et cette prononciation est une obligation, on va dire, ويرفع يديه أحيانا. Et des fois, le prieur peut lever les mains. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait des fois les mains lorsqu'il voulait se prosterner. Et ceci n'est pas à faire régulièrement comme les levées des mains précédentes qu'on a citées qui sont à appliquer régulièrement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les délaissait pas. Al-khururu ala al-yadayn, le fait de se prosterner sur les mains, de descendre donc vers le sol, se prosterner, de descendre sur les mains. ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم ونهى عن التشبه ببروك البعير وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه. ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, il se prosterne en s'affalant sur ses mains. Il les pose donc avant ses genoux. C'est ainsi qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il a accompli sa prière lui-même sallallahu alayhi wa sallam. ونهى عن التشبه ببروق البعير وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه. Ceux qui ont vu la façon dont le chameau ou bien le dromadaire s'agenouille peuvent comprendre la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne ici. Le chameau descend d'abord en reposant ses pattes de devant sur le sol en les pliant. Ensuite, il plie les pattes de derrière. Or, les Arabes disent que les genoux à roquetin du chameau se trouvent dans les pattes de devant. Donc, l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire comme le chameau quand on se prosterne signifie qu'il ne faut pas mettre ses genoux avant les mains, puisque le chameau, c'est de cette façon-là qu'il s'agenouille. فَإِذَا سَجَدَ وَهُوَ رُكْنٌ اِسْتَمَدَ عَلَى كَفَّيْهِ وَبَسَطَهُمَا. Le prosterné, il se reposait sur les paumes de ses mains en allongeant ses doigts. Et la prosternation, donc, c'est un pilier de la prière. وَيَضُمُّ أَصَابِعَهُمَا. Il joint ses doigts et il ne les écarte pas. Les doigts des mains, il n'a pas à les écarter autour de la prosternation, mais il doit les joindre au contraire. وَيُوَجِّهُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ. Il dirige les doigts de ses mains vers la Qibla. La Qibla, c'est la direction de la Mecque. وَيَجْعَلُ كَفَّيْهِ حَدْوَ مِنْ كِبَيْهِ. Il doit mettre ses mains à hauteur de ses épaules. وَطَارَةً يَجْعَلُهُمَا حَدْوَ أُذُنَيْهِ. Et parfois, il peut les mettre à hauteur des oreilles. وَيَرْفَعُ ذِرَاعَيْهِ عَنِ الْأَرْضِ وُجُوبًا وَلَا يَبْسُطُهُمَا بَسْطَ الْكَلْبِ. Il doit obligatoirement éloigner ses bras du sol, donc les lever autant que possible, bien sûr sans que cela change la direction de ses doigts vers la Qibla, d'autant que lever autant que possible ses bras, et ne pas les allonger, ne pas les mettre sur le sol, et les allonger à la façon du chien quand il est couché. Pourquoi j'ai mis cette expression à la façon du chien? Parce que le hadith, c'est ainsi qu'il dit, quand tu es prosterné, ne t'allonge pas à la façon du chien. وَيُمَكِّنُ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَهَذَا رُكْنٌ. Il doit accoler son nez, son front au sol, et ceci est un pilier. Bien sûr, on a précisé que le fait que ceci soit un pilier, si le prieur ne le fait pas, sa prière est annulée. وَيُمَكِّنُ أَيْضًا رُكْبَتَيْهِ. Il doit aussi coller au sol ses deux genoux. وَكَذَا أَطْرَافَ قَدَمَيْهِ. Les bouts de pieds, donc les doigts des pieds. وَيَنْصِبُهُمَا وَهَذَا كُلُّهُ وَاجِبٌ. وَيَنْصِبُهُمَا, il tient ses pieds comme s'ils étaient plantés. وَهَذَا كُلُّهُ وَاجِبٌ. Tout ceci est une obligation de la prière. وَيَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِمَا الْقِبْلَةِ. Donc même les doigts des pieds doivent être dans la direction de la Qibla. وَيَرُسُّ عَقْبَيْهِ. Il doit accoler ses deux talons l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas laisser d'espace entre les deux pieds ni entre les talons. لِعْتِدَالُ فِي السُّجُودِ. La raffermation et l'apaisement au cours de la prosternation. On a vu que au cours de toutes les stations successives, la personne doit observer un apaisement et ne doit pas prier d'une façon
rapide et sans connaître d'apaisement. ويجب عليه أن يعتدل في سجوده وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده وهي الجبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين. Il est obligatoire qu'il s'apaise au cours de cette prosternation. Et de quelle façon? En se reposant sur ses membres, sur sept membres. Les sept membres dont on a parlé, c'est-à-dire le front et le nez, en même temps, les deux paumes des mains, ou bien si on veut les deux mains, le rukbatan, les deux genoux, l'atraf qadamain et les bouts des pieds, les doigts donc des pieds. En se reposant ainsi sur toutes ces parties, il peut s'apaiser et retrouver l'apaisement du corps du début. ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا والاطمئنان في السجود ركن أيضا. Celui qui agit d'une telle façon, qui accomplit sa prosternation d'une telle façon, il va s'apaiser, il va se rassérénier, et l'apaisement, l'itminan, est un pilier de la prière. Car celui qui prie sans connaître l'apaisement, qui prie rapidement en passant d'une station à une autre, d'une position à une autre, en étant essoufflé, sans connaître l'apaisement en chaque station, la prière n'est pas valable. ويقول فيه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر. Il doit dire au cours de la prosternation, donc quand il a posé son front sur le sol, son front incliné, quand il est prosterné, il doit dire سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي on a traduit, je reconnais au Dieu mon Seigneur que tu ne connais pas mes défauts, الأعلى, le très haut, le plus haut. ثلاث مرات, il doit prendre cette formule, trois fois, et plus. شيخ الألباني يومات وفيه أفكار أخرى تراها في صفة الصلاة كما نبي pour les autres stations il y a d'autres invocations mais ici par souci d'être bref شيخ الألباني ما cité que cette invocation يستحب أن يكثر الدعاء فيه فإنه مظنة الإجابة. Il est recommandable de recommander que la personne fasse de multiples invocations, de multiples invocations qui soient propres, ou bien qui étaient prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cet endroit, la prosternation, ou plutôt ce moment, le moment de la prosternation, est le moment le plus propice pour que Dieu exauce les vœux de ceux qui l'implorent. Car le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أقرب ما يكون العبد من ربه السجود فأكثر من الدعاء. Le moment où la personne est la plus proche de son Seigneur, de Dieu son Seigneur, est la prosternation. Donc, prononcez le plus de دعاء que vous pouvez, le plus d'invocation que vous pouvez. ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم. On avait vu que les piliers, les différents piliers, leur longueur doit être à peu près égale. Donc de la même façon, la durée de la prosternation doit être à peu près égale à la durée du rukou' et des autres piliers. وَيَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى حَائِلٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَبْهَةِ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ. Il est permis de se prosterner soit sur le sol directement, donc d'apposer le front, les nez et les autres parties qui doivent toucher le sol lors de la prosternation, soit directement sur le sol ou sur la terre, ou bien sur une moquette ou un tapis, et le front peut être recouvert d'une toque, il n'y a aucun problème à ceci. Le chef Aden répond par là à ceux qui prétendent que le sol doit que le front doit toucher directement le sol et qu'il ne doit rien y avoir entre le front et le sol. Selon l'avis de ces personnes-là, donc, il ne serait pas permis de prier dans les mosquées actuelles puisqu'elles sont toutes recouvertes de moquettes ou de tapis. Mais le véritable avis, l'avis qui est vérifié, c'est qu'il est permis de prier sur les moquettes d'avoir le front recouvert d'une toque, de chercher par exemple, il n'y a aucun problème à ceci. ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد. Il n'est pas permis de lire le Coran, une sourate du Coran, ou bien quelques versets du Coran, au cours de la prosternation, par un hadith qui l'interdit. الافتراش والبقاء بين السجدتين. On vient de parler de la prosternation. Bien sûr, la personne donc maintenant va se relever de cette prosternation pour se reprosterner une deuxième fois, Comment doit-elle se tenir entre ces deux prosternations? Il y a deux façons de se tenir. La première façon s'appelle l'iftirash, la deuxième façon s'appelle l'iqa. Cheikh Al-Albani va les décrire dans ce paragraphe. ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب. Ensuite, il se relève la prosternation en levant sa tête tout en disant Allahu Akbar. Et ceci est une obligation. ويرفع يديه أحيانا. Il lève tout en se relevant. Il peut lever ses mains. Il peut les lever parfois. Car la Sunna indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains parfois. ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم الى موضعه وهو ركن. Ensuite il s'assoit jusqu'à connaître l'apaisement, jusqu'à ce que chaque os retrouve sa place d'origine, jusqu'à ce que chaque membre s'apaise, et ceci est un pilier.